Bonjour à tous. Vous êtes bien installés? Alors j'en connais une dans cette salle qui stresse un petit peu. Vous vous doutez de qui c'est cette personne? Tout le monde la connaît? Pas encore? Elle s'appelle Nathalie. Elle est juste là, en face de moi. Alors Nathalie, je sais que je peux pas me mettre dans ton cœur et te rassurer, mais j'ai quand même amené des éléments pour te rassurer. Déjà, sache que beaucoup de gens sont de pied d'œuvre depuis très tôt ce matin. Donc, et puis on en suit ici. Tout est carré, prévu, d'accord? Tu commences à être habitué. Mais t'inquiète pas, il y a d'autres choses. Tu sais, si tu crains d'avoir froid, eh bien sache qu'on a un régulateur électronique. Et la température est à 37 degrés. C'est quand même la classe, quoi. Alors, je sais que tu as très peur. Alors, si tu as peur de te noyer, parce que forcément, tu vas être dans l'eau entièrement, eh bien, sache que j'ai prévu pour toi une petite bouée. Un gilet de sauvetage. Au cas où. Ça te rassure? Je vois que tu n'es toujours pas rassuré, hein. Alors sache que si tu crains d'avoir froid en sortant, j'ai aussi prévu une polaire, d'accord? Donc là, ça va être sympa. Si jamais ça se prolongeait, j'ai amené les palmes. Puis si t'as peur que tes amis qui sont là meurent de faim, bah sache qu'il y a un grand buffet, on peut manger à 200 sans problème. Donc vous êtes les bienvenus, hein. Si vous êtes là pour la première fois, sachez qu'on a prévu large justement pour que vous soyez nos invités. On est des privilégiés de vous avoir, on est honorés de votre présence et on espère que vous allez passer un bon moment et qu'on finira autour de cette table. Et puis, ultime petite précaution, si jamais t'as peur de te mélanger les pinceaux dans ton témoignage, sache que j'ai imprimé la deuxième version. C'est ton témoignage, donc. As-tu là aussi? Ça te rassure? Ah, Nathalie est rassurée. Moi aussi. En fait, mon ami Georges, il dirait, mais what else? Vous savez probablement que Nathalie est étudiante à l'IBG, et qu'elle est arrivée à Genève pour étudier la Bible et approfondir sa foi. Mais à la fin de la première semaine de cours, Nathalie a réalisé une chose capitale. Eh bien, en fait, elle connaissait ni Jésus, ni l'Évangile. Alors, elle avait quand même quelques connaissances, mais elles étaient vagues. Jusqu'ici, et elle nous le dira dans le détail tout à l'heure, elle avait essayé de plaire à Dieu en étant sincère, et elle l'était, mais son obéissance était motivée par la peur. Elle voyait Dieu comme un juge, comme quelqu'un qui avait toujours plus d'attentes et qu'elle ne pouvait jamais réaliser. Et le 24 septembre dernier, elle a décidé de rencontrer Pierre. Alors pas l'apôtre, hein, mais l'ancien directeur de l'IBG. Et c'est au cours de cet entretien que sa vie a basculé. Que Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Elle a compris l'évangile de Jésus-Christ. Et j'aimerais juste qu'on essaye, on se projette dans sa vie ce matin, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc elle a saisi ce message de l'évangile et je vais vous le projeter derrière moi. Vous allez voir ce message. Alors c'est pas celui-là. Ça c'est celui de la semaine dernière. Alors, en fait, je vais le lire, vous allez l'avoir sous les yeux. C'est l'apôtre Paul qui résume en fait l'évangile, et j'ai trouvé que c'était vraiment, je pense, connaissant Pierre, c'est un ami, je suis convaincu qu'il a pris l'écriture pour te présenter l'évangile. Et elle fait oui, je connais bien. Et donc, je prends un texte, mais il y en a des dizaines dans l'évangile, et dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament. Tite chapitre 3, dit la chose suivante. Nous aussi, alors si vous voulez suivre dans vos Bibles, vous pouvez, c'est Épître de Tite, chapitre 3 et les versets 3 à 7. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvée. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. J'arrête ici la lecture. Je vais juste faire quelques remarques sur ce texte. Mais quelques remarques, cinq remarques en fait essentielles que tu as acceptées. Et c'est en fait cinq constats. Le premier constat, alors je vais reprendre ce texte et je vais le découper en cinq portions. Premier constat, c'est que nous sommes pécheurs par nature et incapables de changer cet état. C'est ce qu'il dit au verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions. Il se place dans ces gens qui étaient en dehors de Dieu. Alors le premier constat, c'est un constat négatif. C'est finalement une mauvaise nouvelle. La Bible affirme ici dans ce texte, mais ailleurs, que même si on n'exprime pas toute la palette des péchés, et même que parfois certains péchés nous répugnent, eh bien on est pécheur par nature. Notre égoïsme s'exprime naturellement. On n'a pas besoin de l'apprendre. Si vous avez eu des enfants, ou si vous avez été enfant, vous savez que vous êtes égoïste naturellement. Quand vous devez choisir dans un gâteau, vous prenez toujours laquelle de par la toute petite. Si vous aimez trop ce gâteau, les enfants, soyez honnêtes. Alors là, je m'adresse aux enfants, mais je sais que c'est pareil pour les adultes, en fait. On est pécheurs par nature. Et donc, quand on a quelque chose qu'on aime, on va se le réserver. Et c'est comme ça. Ça fait partie de nous. Notre égoïsme est naturel. Il est 100% bio. Je me marre tout seul en écrivant ces textes-là, mais ça vous fait pas rire. J'ai pas mis sourire, mais vous pourrez rigoler, hein, ça arrive. En fait, si on réalise, on est tous aussi accros à quelque chose dont on a du mal à se défaire. Alors je sais que les Suisses, c'est plutôt le chocolat. Les Français, ça sera plus la râlerie, ça c'est leur spécialité. Hein, le fait de critiquer, ça c'est le sport national, on est des champions du monde. Et en fait, c'est ce que dit le texte, en fait on est esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Et malheureusement, on peut pas s'en défaire. Le péché est comme dans nos gènes, il est incrusté dans nos gènes, dans nos pensées, dans nos motivations profondes, et malheureusement, on peut pas s'en débarrasser tout seul. Est-ce que je pourrais avoir un... Et Nathalie, eh bien comme moi, elle a dû commencer par faire ce constat d'échec. Comprendre qu'elle était incapable de plaire à Dieu et de changer son cœur toute seule. Ça, c'est le premier constat, et c'est la mauvaise nouvelle quelque part, mais elle est nécessaire. On doit arriver à cette conclusion. Je ne suis pas capable de me changer toute seule. Merci beaucoup. Il fait chaud aujourd'hui. On est dans un bain thermal. Donc, premier constat. Ensuite, deuxième constat. Dieu nous aime et a prouvé son amour à la croix. Regardez, le verset 4 dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, pas son jugement, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Bien souvent, les gens rejettent Dieu parce qu'ils ne connaissent pas son amour, la manière dont Jésus les a aimés. Ils l'ignorent, ils pensent que c'est un Dieu qui vient pour juger, mais non, il vient par amour pour nous sauver. Et c'est ça sa motivation principale, c'est son amour, sa bonté. On a les deux mots dans ce texte. Sur la croix, Jésus est mort par amour. Il est venu, il a pris notre péché sur la croix. C'est lui qui a pris ce péché-là. Il est mort pour nous pardonner, pour qu'on puisse accéder à Dieu. Vous savez, ça me fait penser à cette histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Gajovnicek. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. En fait, c'est un Polonais qui était donc détenue par à Auschwitz dans un camp de concentration. Et puis il y a un détenu qui a réussi à s'évader, c'était rare mais ça arrivait. Et quand c'était le cas, eh bien le commandant du camp saisissait 10 hommes et les laissait mourir de faim. Et donc il prenait au hasard la liste et ce jour-là, Francis Gajovnicek a entendu son nom. Et son cœur a parlé, il a dit « Ah, ma femme et mes enfants !» Et à côté de lui, il y avait cet homme, Maximilien Kolm, c'est un prêtre franciscain. Il a entendu ce cri et il s'est avancé, il a dit « Moi, j'ai ni femme ni enfant, je veux prendre sa place. » Et cet homme est mort à la place de Francis. Chaque année, il va sur sa tombe pour le remercier. En fait, c'est ce que Jésus a fait. Il a pris notre place. On était désignés coupables et il a fait comme Maximilien. Il a pris notre place. C'est un acte héroïque et c'est ce que Jésus a fait. Mais pas parce qu'on était meilleurs que les autres et parce qu'on avait femme et enfants, parce qu'on était pécheurs. Vous voyez la motivation ? Elle est beaucoup plus grande. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Troisième constat. Dieu nous sauve par sa grâce et non par nos actes de justice. En fait, Dieu aime que nous fassions du bien, qu'on fasse de bonnes œuvres, des bonnes actions. Il aime qu'on fasse ça. Mais pas pour nous justifier. D'accord ? Et il ne faut pas confondre les deux. On n'est pas appelé à être des mauvaises personnes. Le salut par la grâce, c'est pas pour faire de mauvaises choses, on s'entend. Mais c'est pas comme ça qu'on accède au Seigneur. De toute façon, si vous pensez pouvoir acheter quelque part, parce que c'est un achat qu'on fait, avec Dieu, on négocie, on fait du troc, eh bien avec Dieu, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la grâce est un cadeau. La grâce est un cadeau, c'est pas un troc, on peut pas faire d'échange avec Dieu. Vous savez, hier, c'était l'anniversaire de ma fille, et puis elle a sa copine Estelle. Où es-tu, Estelle ? Tu es dans la salle, je le sais. Ah, elle est tout au fond, à côté de sa copine. Et donc, Estelle a offert un cadeau à ma fille. Et donc, elle l'a accepté volontiers, mais imaginons que ma fille regarde, fouille dans sa poche, trouve un petit billet de 10 euros et lui dit « Tiens, c'est pour le cadeau. » À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est encore un cadeau ? Non, là, c'est de la négociation, en fait. Hein. On est dans une vente, on est dans un troc. Eh bien, certains pensent qu'en faisant des bonnes actions, ils vont troquer avec Dieu. Mais lui, il nous dit « Non, je t'offre un cadeau. Si tu veux essayer de le rembourser, c'est que tu n'as pas compris la valeur du cadeau. » Et en fait, ça m'offense. Et donc, quand Dieu dit qu'il nous sauve par la grâce, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, ça n'intéresse pas, si c'est pour gagner le ciel. Parce qu'il nous donne ce cadeau, il nous l'offre. Donc, ne l'offensons pas. Et donc, ça, c'est le troisième constat. C'est que le cadeau est offert gratuitement. On n'a pas besoin, on ne fait pas un échange avec Dieu. Constat numéro 4. Dieu change notre cœur en nous faisant renaître spirituellement, chose qu'on est incapable de faire. Regardez ce que dit le texte. À travers le bain de la nouvelle naissance, qui est une image du baptême, cela dit, hein, baptême du Saint-Esprit ici, mais c'est aussi l'image qu'on véhicule dans le baptême d'eau. Donc à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. En fait, on ne peut pas plus acheter Dieu par de bonnes actions que l'on peut changer notre cœur. C'est de même niveau. On ne peut pas le changer. C'est pas possible. On a besoin d'une intervention extérieure. Et c'est Dieu lui-même qui vient opérer. C'est lui le grand chirurgien, le spécialiste en transplantation cardiaque. Et en fait, il nous implante pas n'importe quel cœur, il nous implante un cœur pur. On a un cœur malade, le péché, c'est un peu comme le cancer qui nous ronge, c'est spirituel. Mais ce péché-là nous ronge et Dieu vient changer notre cœur et il vient nous donner un cœur moderne, un cœur connecté. Un cœur avec le Wi-Fi qui peut capter Dieu en fait. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu changer notre cœur par le bain de la régénération. Donc le Saint-Esprit est le Wi-Fi quelque part qui nous permet d'accéder à Dieu. Et il nous donne un cœur qui est capable. capable, alors qu'avant, il n'était pas capable de capter. Hein, vous avez eu des vieux ordinateurs qui n'ont plus qui n'avaient pas le Wi-Fi. Avant, on se connectait avec un fil. Eh bien, c'est un petit peu ça. Dieu nous dit, non, t'as rien à faire. T'as pas besoin de fil. Laisse-moi faire. Je change ton cœur. C'est moi qui prends les choses en main. Et ça fait 2000 ans qu'il fait ça. Ou même bien plus, parce qu'il le faisait aussi déjà dans l'Ancien Testament. Mais là, il va le faire de manière en usine, quelque part. Tous les disciples qui vont venir à Jésus, il va changer leur cœur. Il a une fabrique de cœur et il nous donne à chacun cette capacité d'être connecté à Dieu. Depuis 2000 ans, dans la version 2.0, dans l'Ancien Testament, ils avaient aussi le Saint-Esprit, mais de manière différente. Nous, on a la Wi-Fi fibre, la totale, quoi. 5G, pardon. J'ai dit qu'il n'y avait pas de fil. Constat numéro 5. Dieu nous déclare juste et nous offre sa vie éternelle. Regarde le texte. Ainsi déclarés juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Non seulement Jésus a fait le travail à notre place, mais il échange sa justice parfaite contre notre injustice. Il échange notre mort spirituelle, notre incapacité à être connecté à Dieu, et la remplace en nous donnant la vie éternelle. Il prend les plus pauvres, les plus nuls d'entre nous, et il leur offre son statut. Dans son royaume, on devient juste, on devient parfait, on devient héritier de sa nature et héritier de la vie éternelle, parce que il nous la donne. Donc on devient héritier de toutes ces choses. Voilà ce que Nathalie a compris le 24 septembre 2021 dans le bureau de Pierre. Et je peux vous dire, pour l'avoir observé ces quelques derniers mois, que c'est plus la même personne. Elle vous le dira, elle le dit à tout le monde. Mais il y a eu un petit problème à un moment donné, c'est qu'elle est venue me voir, parce qu'elle vient dans notre assemblée depuis quelques mois. Et elle m'a dit, écoute, Franck, j'ai un problème. J'ai envie de me faire baptiser, mais j'ai déjà été baptisé. Je dis, ah, effectivement, je veux pas être un rebaptiseur, hein, même si je suis un anabaptiste. Hein, on est protestant et anabaptiste dans les milieux évangéliques, et anabaptiste, ça veut dire rebaptiseur. C'était un pamphlet, hein. C'était pas terrible quand on disait ça de quelqu'un, mais c'était parce qu'on avait compris quelque chose. C'est qu'on a compris que le baptême se faisait sur des disciples et était pour des disciples et non pas pour des bébés inconscients de ce qu'ils font. Le baptême est un choix volontaire de se soumettre à un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Et à partir du moment où on connaît Jésus-Christ, eh bien on va se soumettre. Et un des premiers actes volontaires de soumission, c'est le baptême. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, connaissant ta situation, tu te rappelles, je t'ai posé ces deux questions. Est-ce que tu penses que tu étais un authentique disciple de Jésus le jour de ton premier baptême ? Et la deuxième question que j'ai posée, est-ce que tu as découvert Jésus le 24 septembre 2021 ? Ou bien, est-ce que c'était juste une prise de conscience dans un domaine particulier ? Parce que quand on est enfant de chrétien, on réalise pas toujours le moment auquel on s'est converti. C'est un peu flou. Vous pouvez discuter avec mon épouse. Moi, je peux vous dire le jour et l'heure. Elle est incapable. Ben parce qu'elle a connu Jésus de différentes manières à plusieurs moments. Et effectivement, quand on est un jeune croyant, parfois il y a des prises de conscience. Mais c'est pas forcément une conversion. Vous voyez? Et c'est ça qui m'inquiétait. Je me suis dit, est-ce que Nathalie était déjà convertie, qu'il y a eu une prise de conscience dans le bureau de l'apôtre Pierre? De Pierre Klipfel, pour nommer son nom. Est-ce qu'elle a... Eh bien non, en fait, elle m'a dit non, je suis né de nouveau ce jour-là. Alors je lui ai dit, bah, écoute, si tu connaissais pas Jésus avant, eh bien alors, oui, on va s'engager dans cette direction. Et en fait, ça m'a fait penser à une histoire, parce que je me suis dit, mais finalement, on rebaptise, pourquoi rebaptiser ? Et j'ai trouvé une histoire qui ressemble vraiment à la tienne, c'est dans Acte 19. C'est un texte compliqué, donc je vais aller très très rapidement maintenant, mais c'est vraiment intéressant, parce que ce sont des disciples qui ne connaissaient pas Jésus. Regardez le texte. Acte 19, on est à peu près 25 ans après la résurrection de Jésus. 25 années, ça fait long. Eh bien, il y a toujours des gens qui ne savaient pas que Jésus était mort et ressuscité. Ils étaient sincères, vraiment, mais ils ne connaissaient pas le Christ ressuscité. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean !» Alors Paul dit « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus !» Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. J'arrête la lecture ici, vous pourrez la continuer à la maison. C'est un texte circonstanciel. On est dans le livre des Actes des Apôtres qui est une sorte de flash de ce qui s'est passé dans les premières années du christianisme, les 30 premières années. Et en fait, on voit ici un groupe d'hommes. Alors, si on poursuit, on voit qu'ils sont 12. Peut-être que c'est un petit clin d'œil du Seigneur. Mais en tout cas, on voit 12 croyants sincères qui sont disciples de Jean-Baptiste. C'est ce que nous dit le texte. Et donc, ce qui préoccupe l'apôtre Paul, c'est de savoir s'ils ont connaissance du fait historique de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que c'est un fait essentiel, et de la Pentecôte. Petite révision, ce matin, premier événement, Jésus meurt à la Pâque, il ressuscite 3 jours après, il reste sur terre 40 jours, il monte au ciel, ascension, 10 jours après, il envoie l'Esprit, Pentecôte, d'accord ? 50. Et donc, ce sont des faits historiques fondamentaux. Et donc, il essaye de voir s'ils ont eu connaissance de ça. Et la réponse, elle est sincère, mais elle montre leur ignorance. Elle montre leur ignorance. Je viens de sauter 3 pages, je reviens. Vous inquiétez pas. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Esprit Saint. En fait, ces gens ignoraient l'Évangile. Ils ne connaissaient pas les faits fondamentaux du christianisme. Alors vous, ça vous choque peut-être, parce que nous, on est tous connectés les uns aux autres, les jeunes d'autant plus que nous, avec TikTok, Instagram, Snapchat, et pour les vieux, Facebook. Et on sait tous à la minute ce qu'un ami de l'autre côté de la planète a mangé. Je sais quand elle a mangé des sucettes au sirop d'érable, quand Heidi, je le sais, une minute après. C'est une blague, elle ne mange pas de sucre. Et donc on a du mal, parce qu'on se dit, attends, mais nous, dès qu'il y a le moindre événement, on est au courant. Et là, on est 25 ans après ces événements, et ces gens ne sont toujours pas au courant. Les commentaires disent que c'est probablement un mouvement sectaire. C'était des disciples de Jean-Baptiste, mais qui étaient déconnectés du monde. Il y avait à peu près 500 000 personnes à Éphèse, on pouvait largement se noyer dans la masse. Et probablement que ces gens étaient ignorants, mais qu'ils étaient restés entre eux. Au départ, c'était pas mauvais. Simplement, le monde, il bouge, et toi, tu restes au même endroit. Et en fait, là, il y a un update qui va se faire, et c'est l'apôtre Paul qui va faire cette mise à jour nécessaire. Parce qu'ils étaient restés au baptême de repentance, au baptême de Jean-Baptiste. Ce n'était pas une mauvaise chose, mais Jean-Baptiste, il était venu pour préparer la venue de Jésus-Christ. Il était venu pour dire « c'est pas vers moi que vous devez pointer vos regards, mais c'est vers le Messie !» Et à l'époque, ils ne connaissaient pas encore le Messie. Alors oui, lui, il l'a découvert. Et une fois qu'il est mort et ressuscité, il a été identifié clairement, et c'est ce qu'il fait. Il leur rappelle. Regardez, donc il a été baptisé, ils ont été baptisés une première fois par Jean dans le Jourdain. Ils ont été immergés dans l'eau, et c'est ce que dit l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, venaient à lui, donc à Jean-Baptiste, et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. on confesse nos péchés. Donc il y a une sorte de purification verbale, et cette purification, eh bien, elle va se manifester pour montrer notre sincérité et notre adhésion. Eh bien, on va plonger dans l'eau. Et chez les Juifs, quand on plongeait dans l'eau, comme chez nous, quand on va dans un bain, généralement, à part si on y va pour nager, mais c'est pour se laver, c'est pour se purifier. Et donc c'était un acte de purification qui d'ailleurs, au passage, chez les Juifs, aujourd'hui c'est le dernier acte pour devenir un vrai Juif. Si on est un païen et qu'on veut se convertir au judaïsme, il faut, c'est la dernière étape, passer par dans un bain purificateur, la mikvé. Il y en a encore aujourd'hui. Et bien vous voyez, ça c'est l'état juif en fait. Il leur manque un update, c'est que le Messie, on sait qui c'est maintenant. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il va leur dire... Regardez verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Ça, c'est fait. Premier baptême. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Mais eux, ils ne savaient pas qui c'était. Ils étaient dans l'ignorance, comme toi. Tu connaissais un Jésus, mais pas le Jésus de la Bible. Pas le Jésus rempli de compassion, d'amour, de grâce, qui t'accueille tel que tu es dans ton péché, dans ton jus, dans ta grâce, et qui va te prendre et qui va te changer de l'intérieur. Pas forcément tout de suite l'extérieur, mais l'intérieur, c'est instantané. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va opérer ça dans ton cœur. Et c'est ce qu'il a fait, j'en suis le témoin. J'en suis le témoin. En fait, le texte ne dit pas grand-chose ici, mais probablement que Paul a clarifié. On a une synthèse, c'est un résumé, le livre des Actes. Probablement que Paul a prêché les 5 points qu'on a vus auparavant. Il a clarifié l'évangile. Et donc, comme c'était clair, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été l'étape qui a suivi juste après? Le baptême. Baptisé une deuxième fois. Alors c'est un texte particulier, oui, mais je retire ce principe. Quand on a été baptisé, ou quel que soit le rite qu'on a fait, si on n'était pas croyant, si on ne connaissait pas le Jésus pour lequel on est soumis aujourd'hui, alors je pense que le deuxième baptême est nécessaire et est légitime. Donc oui, Nathalie, je te baptiserai, rebaptiserai avec joie, mais parce que je considère que ton premier baptême, eh bien tu ne connaissais pas l'évangile, tu ne connaissais pas Jésus. Donc c'est comme si ton premier baptême n'était pas valide. Et donc c'est pour ça qu'on va opérer un baptême. Alors vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi on baptise quelqu'un? Et qui on baptise? Eh bien, la Bible, elle est simple, c'est pas la peine d'avoir atteint un certain niveau, il suffit d'avoir compris et saisi le message de l'évangile. D'accord? On parle pas de la sanctification ici. On est sur un chemin. Un disciple, c'est un apprenti, c'est un élève. Et les élèves, par définition, ils maîtrisent pas tout. Ils apprennent, ils tombent et ils se relèvent. Et ça, c'est un vrai disciple. Donc, Nathalie n'est pas une femme qui est passée de la mort à la vie, certes, mais elle est encore pécheresse. Elle va continuer de pécher. Non, Nathalie n'est pas un disciple parfait. Elle n'est pas meilleure que les autres. Par contre, elle a saisi plusieurs choses. Et j'aimerais juste vous rendre attentif à 5 aspects, et je termine là-dessus. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime Jésus imparfaitement, mais passionnément, avec ses tripes, et qui va faire de son mieux pour ressembler à son Seigneur, qui va essayer de ressembler au caractère de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui sait que Dieu l'aime comme il est, et non pas parce qu'il fait de bonnes œuvres. Un disciple, c'est quelqu'un qui désire obéir à Jésus, non pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé gracieusement. Un disciple, c'est quelqu'un qui agit par reconnaissance, qui obéit volontairement et non par contrainte, ce qui était ton cas tout au long de ces années. Un disciple, c'est quelqu'un qui adopte les valeurs de son nouveau roi. Il ne vit plus pour lui-même, égoïstement, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche la communion des autres croyants en participant à la vie communautaire et en mettant ses dons et ses talents au service des autres. Et je termine, parce que c'est ici ce qui nous rassemble ce matin. un disciple s'identifie pleinement au peuple de Dieu. Et le premier geste pour s'identifier au peuple de Dieu, eh bien, c'est tout simplement le baptême. C'est ce que Jésus a commandé à ses disciples. Et c'est pour ça que nous, qui marchons à sa suite, nous, on est comme toi. On a un petit peu d'avance, c'est tout. Mon eau sera probablement plus sale que la tienne. Mais en fait, on a été baptisé, on n'a pas besoin de le refaire parce que Jésus, il est mort une seule fois. Et donc, si tu t'es placé sous la tutelle de Jésus, alors le baptême est pour toi. Peut-être que vous connaissez pas Jésus encore ce matin. Peut-être que vous le connaissez, mais que vous n'avez pas osé passer par les eaux du baptême. Eh bien, ce matin, vous avez toutes les éléments pour vous positionner. Si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, moi, je vous invite à y réfléchir très sérieusement. Quand on aime quelqu'un, on aime sa famille. Et donc on veut s'identifier avec sa famille. Et c'est ce qui se passe.